La préparation du purin, le ratio de...
On prend un seau, on bourre.
Ouais, on en a un maximum.
C'est
on
plus pour la dilution après qu'il faut faire attention.
Ouais, d'accord. Voilà.
Mais pour le pour la macération...
on bourre tout ce qu'on peut, voilà. Et on couvre.
Mmh. Ok.
Il ne faut pas que ce soit trop fort non plus, sinon
et
ça
après,
peut
bien
brûler.
Diluer un pour 10 ans.
Ça brûle les pieds.
Faites attention, on peut, l'ortie notamment, c'est très riche en azote, vous cramez les pieds. Quoi.
D'accord. C'est traité aussi pour compter certains
alors on le donne aussi, les champignons, non, des trucs on le ça. Donne aussi notamment le purin, mais le purin de 3 jours contre les pucerons.
Pas hyper ouais. Efficace.
Mais... J'ai testé, pas hyper efficace, voilà. Après, d'autres ne jurent que par ça. Après, je dirais que les pucerons, à la limite, s'il y en a, on ferait mieux d'avoir essayer d'avoir un potager qui est équilibré avec un maximum de plantes différentes, des fleurs, etc., de façon à avoir des prédateurs naturels du puceron, et ça fonctionne beaucoup mieux que dès qu'on voit un puceron sur une plante venir intervenir, mettre même du savon noir qui les étouffe, hein, c'est naturel. Le problème, c'est que le savon noir, si jamais il y a une larve de coccinelle, elle va y passer aussi.
Ouais. Voilà.
Alors que si on laisse bien pousser des fleurs, etc., notamment le cirf qui est peu connu, hein, cette espèce de petite abeille qui fait du surplace, qui est une mouche. Hein.
Ouais.
Le cirf butine énormément tout ce qui est carottes sauvages, les ombellifères. Ne tondez pas, alors je vois beaucoup de gens qui ont des jardins en permaculture, mais qui passent la tondeuse tous les 15 jours. C'est de la permaculture, mais c'est pas très perma. C'est en fait, on n'a pas de plantes sauvages, on n'a pas de fleurs. Donc avoir des fleurs sauvages, c'est très bien. Je vous dis, le cirf notamment est très intéressant parce que sa larve est encore beaucoup plus efficace même que la coccinelle. Il va pondre systématiquement où il va avoir des pucerons et il en mange une quantité phénoménale. Et c'est pour ça aussi qu'il faut avoir beaucoup de plantes différentes. Parce qu'en fait, si on veut que les cirfs ou les coccinelles puissent se nourrir, il faut qu'il y ait des pucerons toute l'année. Or, pour avoir des pucerons toute l'année, il faut avoir une diversité de plantes intéressantes. Parce que on a énormément d'espèces de pucerons en fait, qui sont presque, qui ne vont que sur une sorte de plante.
D'accord.
Donc plus on a une diversité, plus on va avoir des pucerons sur des plantes sauvages, plus ces insectes vont pouvoir faire des cycles de reproduction et intervenir au moment où le puceron alpha sera sur telle plante.
D'accord.
De notre jardin. Je ne sais pas si je suis très clair, voilà. Mais il faut permettre d'avoir beaucoup de cycles d'insectes pour pouvoir intervenir au moment où le puceron qui nous embête sera là.
Du coup, plus on a de mauvaises herbes, entre guillemets, plus
meilleur,
sont on a de bonnes herbes voilà. En fait.
Plus on a un bel équilibre du jardin.
Voilà.
Voilà. Et puis voilà, à part quelques. C'est rare qu'un, enfin, certaines plantes supportent plus ou moins le puceron, il y en a, ça ne les dérange pas du tout. Voilà. Mais il ne faut pas tout de suite intervenir, essayer de traiter, parce qu'en fait, il faut le temps aussi qu'il y ait une réponse de la nature par rapport à ça.
Il faut savoir jauger, hein. Bien sûr, s'il y a une grosse invasion, si la plante est à la limite de mourir, là, il n'y a pas le choix de...
Peut-être intervenir.
Voilà.
C'est surtout en début de saison où ça peut arriver, parce que justement, début de saison, on n'a pas encore suffisamment les insectes viennent se réveiller. En fait, la coccinelle, elle commence là, chez nous, elle commence depuis quoi, 15 jours. Hein. Mm. Il suffit qu'il y a des coups de froid et tout, elle se réveille pas tout de suite. Mm. En revanche, notre jardin est déjà parti et les pucerons sont des fois déjà là.
Déjà là.
Voilà. Notamment en serre ou dans des voilà. Milieux qui sont fermés, auxquels, où il n'y a pas assez justement de diversité. Mm. Dans une serre, typiquement... C'est un milieu qui est pas naturel et là où on peut avoir des problèmes facilement.
Et en plan de diversité, qu'est-ce qu'on a d'autre à ramasser du coup en ce moment ?
On continue. Donc l'ortie dioïque, l'ortie blanche, qu'on appelle l'ortie blanche, qui est plutôt un lamier. Le lamier blanc, celle qui ne pique pas, qui fait une jolie fleur blanche. Donc qui est intéressante aussi. Alors elle se mange, moi je lui trouve un petit goût de grenier.
Grenier.
Ouais, de bois, de vieux bois, de
champignons.
Un champignon aussi, oui. Mm. Alors voilà, ça c'est question de goût. Ça se mange pareil que l'ortie normale. Et elle est aussi médicinale comme l'ortie piquante, hein, qui est aussi une drainante. Voilà. Et on a parlé de l'ortie piquante, mais on n'a pas parlé de ses aspects médicinaux.
Oui, c'est ma main.
Voilà, donc je reviens un petit peu dessus. Elle est drainante, elle draine le foie, elle nettoie le sang. Et elle est aussi, elle permet aussi d'arrêter les saignements. Si vous n'avez pas de plantain, vous prenez un peu d'ortie, vous l'écrasez, vous la mettez sur la plaie, elle va être hémostatique aussi. Elle a aussi cet aspect hémostatique. Donc c'est vraiment une plante qui est... C'est une panacée un petit peu. Après, l'ortie blanche, elle a un peu cette action, mais au niveau des règles douloureuses. Des jeunes femmes, souvent, qui ont des règles très douloureuses, ou pas que jeunes, mais voilà. On peut prendre de l'ortie blanche pendant la période des règles, 3 jours avant. On commence à prendre des tisanes d'ortie blanche, et ça peut... vraiment, ça apporte un mieux-être immédiat. Et c'est vraiment un régulateur à ce niveau-là des règles douloureuses. Et à prendre, si on le prend très régulièrement, au final, on s'est aperçu que certaines personnes n'avaient plus.
Ça disparaît, voilà. Ça.
Ouais. D'accord. Ouais. Avec un usage prolongé de plus d'un an. Mais c'est vraiment une très bonne plante pour ça. Fonctionne aussi sur les pertes blanches, elle agit beaucoup sur le système utérin. Voilà. Sur les diarrhées aussi, voilà. C'est la plante des diarrhées. On parle de tout.
Non, mais... J'imagine que ces plantes, on les retrouve en pharmacie sous des molécules particulières ou ils ont inventé d'autres choses
On peut estimer que 40 à 50% de la pharmacopée actuelle est issue de l'étude de ces plantes et des principes actifs des plantes. Après, on les a recréés, mais ces principes actifs sont à la base, 40% des médicaments actuels sont des principes actifs de plantes. L'aspirine. Voilà. L'aspirine vient de spirer. L'aspirée, c'est la reine des prés. Donc, qu'on retrouve aussi dans le saule. Donc, l'acide acétylsalicylique est extrait au départ du saule ou de la reine des prés. Voilà. Donc, spirée a donné aspirine. Beaucoup d'alcaloïdes sont issus de ça aussi, des tanins. Mais à l'origine, voilà, beaucoup de molécules ont été trouvées dans les plantes et on les a reproduites pour avoir un taux de molécules concentré, ouais. Etc. Ça a son travers aussi, c'est que sur ces plantes, souvent on a extrait un seul principe actif et on n'a pas la synergie des principes actifs de la plante, ce qui fait que ça peut provoquer parfois chez certains des rejets, des problèmes. On sait qu'il faut faire attention avec l'aspirine par exemple. Ça fluidifie le sang, il y a certains problèmes qui peuvent avoir lieu, qu'on n'aura pas avec la plante entière, parce qu'on a des principes équilibrés. On a le totem de la plante. On peut faire un parallèle avec les traitements pour le sida, on avait 3 molécules, on s'est aperçu qu'on n'en utilisait qu'une dans un cas, etc. Et qu'en mélangeant les 3, on avait un truc qui était beaucoup plus efficace. Le fait d'isoler une molécule, parfois ça peut poser problème, on n'a plus un spectre d'action aussi large que la plante en avait. Voilà. Après, d'autres plantes qu'on trouve sur le bord des chemins, on va parler un petit peu des arbres. Oui. On va trouver du tilleul. Alors le tilleul, on connaît la fleur du tilleul, elle n'est pas encore là. Hein. Donc c'est une apaisante, elle joue beaucoup lorsqu'on a de la fièvre. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut manger la feuille de tilleul, c'est très bon.
Quand elle est jeune, ouais.
Quand elle est jeune, là, à l'état où elle est encore un petit peu toute molle, mollasse un peu, on peut la mettre en salade. Oui, croque, hein, vas-y.
D'accord. Genre celle-ci.
Celle-ci va très bien. On peut manger des bourgeons aussi, hein. Ça devient à la mode de les faire de faire des extraits de bourgeons, mais beaucoup de bourgeons se mangent, c'est très riche en sucre. Alors voilà, donc là j'ai une feuille de tilleul. En ce moment, oui.
La fleur, c'est...
La fleur, c'est la bractée qu'on voit apparaître là.
Et c'est à quelle période? C'est à l'automne? Non,
la fleur, ça va être dans un mois.
Ah oui, d'accord, ça va être...
On voit apparaître la bractée, et après va s'ouvrir la fleur, ça fait une petite boule. Ça va s'ouvrir, puis ça va refaire une boule où il y aura la graine. Donc on le prend quand le pollen est lâché. On le voit tout de suite parce qu'on voit les pollens souvent autour du tilleul comme ça. Tilleul, l'aubépine en ce moment. Nous ici, l'aubépine est ouverte, peut-être pas partout, plus en montagne un petit peu plus tard. Le problème de l'aubépine, c'est qu'il ne pousse pas partout. D'origine, au-dessus de 850 mètres, l'aubépine a un peu de mal si on ne la plante pas soi-même. Merci réchauffement climatique, on l'aura bientôt plus haut. Simplement, voilà, et l'aubépine est très intéressante, c'est une régulatrice du rythme cardiaque. Qu'il soit trop bas ou trop haut, elle le régule. Elle est très très bonne apaisante, le stress, problèmes de sommeil, un petit peu comme le tilleul. Voilà. À sujet, toujours, faites, quand vous faites des infusions, ne dosez pas trop. On a toujours le vouloir d'en mettre un peu mieux, ça fera plus d'effet. Vous surdosez le tilleul, vous ne dormez pas de la nuit, vous avez le plafond qui tourne. Donc, le trop est le contraire du pas assez. Il faut vraiment faire attention sur les dosages. Un dosage moyen sur une plante sèche, c'est on est de l'ordre de la cuillère à café pour un mug de 25 centilitres.
D'accord.
Une cuillère à soupe pour un litre. C'est un petit, à peu près le dosage qu'on va mettre.
Ça une rien cuillère à soupe pour un litre,
ouais.
À peu près.
Okay. Ça n'a rien de blindé parce qu'au final, on a des effets qui sont parfois inversés. Donc voilà, l'obépine qui est très... Qui
nous... c'est bon pour, du coup pour...
Principalement le cœur, régulateur cardiaque, palpitations. Voilà. Et puis, puis c'est un apaisant, vraiment. C'est très apaisant pour le stress, etc. Donc ça, c'est des. On ramasse l'aubépine sous forme de bouton. Alors tout est bon, hein, que ce soit la feuille, la fleur et même le fruit. Après, ce qu'on appelle la porotte, je ne sais pas. Ça fait comme des petites poires rouges.
Oui, avec un noyau. Voilà,
qui peut se manger aussi. La senelle, c'est une senelle. Elle a les mêmes effets que la fleur.
Il existe plusieurs variétés d'aubépine
ou... Oui, alors il y en a qui sont plus ou moins piquantes, il y en a qui n'ont pas de piquant. Il y en a à feuilles longues, alors je ne saurais pas vous dire les variétés exactes, mais on a au moins 3 à 4 variétés, mais elles ont toutes les mêmes variétés. Ouais. Ils ont des cultivars actuellement qui ont plus de piquant. Ça n'a pas été intéressant. Parce que là, on est en début de récolte, et les premières plantes qu'on va récolter au cours de l'année, pour nous, c'est toutes les piquantes en premier. Hein. Là, en ce moment, c'est l'ortie. Mmh. L'aubépine qui est acérée, qui a des pics qui font 4 cm. Après, on va passer à la rose. On est beaucoup sur des plantes assez agressives quand même en début de saison. Enfin, entre parenthèses, agressives.
Hein. Voilà. C'est aussi un très bon porte-greffe,
l'aubépine. Oui, l'aubépine est un porte-greffe. Après, c'est pas tout simple non plus comme porte-greffe. Mais oui, c'est un très bon porte-greffe pour tout ce qui est pommier, poirier. Voilà.
D'accord. Voilà.
À noyau. Ah, pépin, excusez-moi. Du coup, je me perds, je passe de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'on voit dans l'herbe actuellement ?
Le pissenlit.
C'est un petit peu tard, mais les cures de pissenlit au printemps, les feuilles. Pissenlit, c'est une plante qui nettoie le foie, donc elle tombe bien au printemps, en début de saison, après les excès de l'hiver. Elle fait le même effet au sol. Elle fait le même effet au corps qu'elle fait au sol. En fait, quand un pré est bourré de pissenlit, ça veut dire qu'il est quand même très très azoté et qu'il est un peu engorgé en matière organique. Voilà. Et bien, c'est un peu le même effet qu'on va avoir sur notre corps. Il va permettre de nettoyer ça, nettoyer les excès d'azote, etc.
Et la fleur s'utilise aussi.
Alors, on peut aussi manger la fleur. Moi, en Normandie, je sais qu'ils font des omelettes de fleurs.
De fleurs.
De fleurs, ouais. Ouais. La jeune fleur.
Dans les préparations, non ? Vinaigre
Des vinaigres aussi en bouton. On peut le faire en vinaigre comme on fait des capres. Mais juste le
vin bouton, de pissenlit.
Le vin de pissenlit et qui se fait aussi avec la fleur. Et puis la racine, alors ce qu'on utilise principalement en herboristerie, c'est la racine qu'on fait sécher. Parce que c'est plus pratique à utiliser, c'est plus concentré. Tout simplement aussi, en ce moment, on a sur les bordures de. Un petit peu les endroits frais, le lierre terrestre, ce qu'on appelle le lierre terrestre, qui est une petite plante rampante, rien à voir avec le lierre grimpant. Hein. Mmh. C'est une petite plante avec des petites fleurs violettes, et qui est très intéressante, qui contient des tanins, donc qui va agir beaucoup sur les jarrets notamment, et sur les bronches. C'est une plante des bronches pour les asthmatiques, vraiment qui est très efficace, elle est fluidifiante. Et en cuisine, elle a un certain intérêt aussi, puisqu'elle a un petit goût un peu poivré, mentholé, poivré, qui va très bien dans des farces, des choses comme ça. Nous fournissons un restaurant à côté, qui est à Bar, qui l'utilise énormément. Il fait notamment un très bon pâté en croûte ou pâté de porc avec ça. Voilà. De plus en plus, on cuisine la plante sauvage, c'est pas inintéressant.
On recuisine ou on cuisine ?
On recuisine, oui.
On redécouvre.
On redécouvre. Là, ils ont commencé à prendre la feuille. On voit déjà les petits bouquets floraux qui arrivent. C'est le sureau noir, notamment. Alors il y a trois sortes de sureau. Le sureau noir qu'on connaît tous avec des grosses ombelles qui va faire des fruits noirs. Le sureau rouge en montagne qui lui est à partir de 800 mètres, qui fait plutôt des grappes rougeâtres, mais pas des ombelles. Plutôt un peu comme des grappes de raisin un peu lâches, avec un fruit rouge. Et puis un troisième qu'on voit pas partout mais qu'il faut faire très attention, qu'on trouve plutôt dans les plaines, qui est le sureau yèble. Alors il ressemble étonnamment au sureau noir mais n'a jamais de bois. En fait, il disparaît l'hiver. Il repousse comme une herbe, en fait. Hein.
D'accord.
Mais la tige est épaisse. Il peut faire penser à un jeune sureau noir. En revanche, la fleur, elle se tient droite. Elle ne retombe pas comme le sureau noir. Et il est très, très, très toxique. Donc, bien identifié, le sureau yèble. Il fait rarement plus d'un mètre. Voilà. On le trouve beaucoup dans les plaines, dans la Limagne, dans les plaines du Forêt ou autre.
Le sureau rouge est plus à manger cuit.
Alors, le sureau rouge, je finis. Donc, le sureau rouge, autant le sureau noir, on peut le manger un petit peu comme ça, mais quand même, c'est laxatif. Autant le sureau rouge, il faut absolument le cuire, parce que sinon, c'est très laxatif. En revanche, c'est très riche en plein de vitamines, antioxydants, etc. Donc, le sureau, nous, ce qu'on utilise actuellement, ça va être la fleur. Elle est très, très, très adoucissante. Elle contient des mucilages. Donc les mucilages, c'est tout ce qui va amener des adoucissants, qui va protéger les muqueuses. Quand on, notamment sur une toux, lorsqu'on tousse, une toux très sèche, on a mal à la gorge, on va plutôt utiliser des fleurs à mucilage qui vont protéger les muqueuses, recouvrir un peu comme quelque chose de très doux, et qui va protéger les muqueuses. Souvent les gens ils disent « Oh, j'ai tousse, j'ai mal à la gorge, je vais prendre du thym. Voilà. » Ben non, il ne faut pas prendre du thym, il faut protéger les muqueuses. Si vous prenez du thym, il y a des huiles essentielles naturelles, pas concentrées, comme une essentielle que vous achèteriez, mais qui sont naturelles dans la plante et qui vont irriter en fait les muqueuses. Et si on a mal à la gorge et qu'on boit du thym, on va à l'extinction de voix. Alors effectivement, on va désinfecter, hein, mais ça ne va pas faire du bien du tout aux muqueuses, on va avoir une toux encore plus sèche. Le thym, ce genre de plante ne vient qu'après, ou sur une autre type de toux, quand on a les poumons qui sont pris et qu'on a des glaires, et que c'est le poumon qui est, enfin plus les bronches qui sont infectées, que la gorge, etc. Donc le sureau est très bien aussi parce qu'il est, il agit sur les fièvres, il va faire suer aussi énormément. Donc vous prenez un coup de froid, vous sentez que ça commence à venir, fleur de sureau, ça va protéger les muqueuses, ça va vous faire suer une bonne nuit, et il intervient immédiatement quand on a pris froid. Donc ça c'est une des premières fleurs qu'on va ramasser aussi, d'ici je pense là une quinzaine de jours pour chez nous. Auparavant, on n'en a pas parlé parce que là, elle commence à disparaître. Il n'y en a plus beaucoup chez nous, mais je pense que plus en altitude, on en trouve encore. Les primes verts, ça a été une de nos premières récoltes. Tout le monde connaît la prime vert, hein, qu'on appelle aussi le coucou. Parce que juste, cette fleur apparaît au premier champ du coucou. Donc, la prime verte, très intéressante aussi, très riche en mucilage. Donc, plante de la toux. Souvent, les plantes arrivent au moment où elles sont intéressantes. Hein. C'est des périodes où il commence à faire chaud, mais on peut prendre un coup de froid assez rapidement au printemps. Bah, ces plantes qui adoucissent et qui nous protègent poussent à peu près dans ces périodes où elles ont une action. En fait. Donc ça a été une de nos premières cueillettes. Alors si vous ne voyez pas ce que c'est que des mucilages, c'est des adoucissants. Quand vous touchez ces fleurs, vous le sentez en fait. Si vous les froissez, etc., vous sentez que vos mains sont très douces. Hein. Si vous passez vos mains sur une fleur de sureau, vous ramassez un peu de sureau, vous allez avoir les doigts hyper doux. Pour les gens qui fument, ils ne peuvent pas rouler une cigarette. Hein. Les doigts sont totalement.
C'est quoi, c'est adoucis. Un duvet, c'est une poussière?
Non, les mucilages, c'est vraiment une substance.
Hein. C'est la substance. Voilà,
c'est une substance un peu adoucissante, grasse, un peu, voilà, qui ferait penser au sirop pour la toux. Donc ces plantes, on peut en faire souvent des sirops, toutes ces fleurs adoucissantes. C'est intéressant pour les enfants, c'est plus facile de faire boire un sirop à un enfant qu'une tisane des fois. Donc en faire des sirops, ça peut être intéressant. Dans ces sirops, on peut y ajouter le bourgeon de pin. Notamment, c'est aussi la période, là, on a ça se termine chez nous, mais on a encore des périodes de bourgeon de pin en montagne. Le jeune bourgeon de pin qu'on va faire sécher, très intéressant sur les toux. Les poumons, tout sèche, tout grasse, les deux. Et le bourgeon de pin aussi drainant des reins. Toutes des petites récoltes qu'on peut faire facilement. Souvent les gens parlent de bourgeon de sapin, on parle souvent du bourgeon de sapin, mais en fait le sapin ne fait pas de bourgeon. En fait, hein. Le pin fait un bourgeon. ce qu'on appelle bourgeon de sapin, c'est souvent la jeune pousse qui vient de se dérouler. En fait, c'est pas vraiment un bourgeon, c'est une jeune feuille. En fait. Cherchez pas un bourgeon, c'est un sapin. Alors le CO, ça s'utilise pareil. Hein. La jeune pousse de sapin s'utilise pareil qu'un bourgeon de pin. On a les mêmes substances, les mêmes terpènes. Voilà, et puis, alors pas partout, mais on peut trouver aussi un petit peu sur les bords de haies, les entrées forestières, parfois une très jolie petite fleur qui est la pervenche. Une petite fleur bleue qui est tapissante, avec des feuilles assez longues d'un vert foncé. C'est bien la période en ce moment aussi, cette petite pervenche, elle est magnifique. On ne peut pas bien se tromper quand on la voit. Et elle est très intéressante, elle, sur tout ce qui est capillaire. C'est-à-dire, on disait des anciens, quand ils commençaient à radoter, à perdre la mémoire, il est bon pour la petite pervenche. Bon. Parce qu'elle favorise le flux sanguin au niveau du cerveau, notamment. La capillarité, les problèmes même sur les artères et les veines. Donc c'est vraiment une plante intéressante. Ça renforce les capillaires et la circulation sanguine des micro-vaisseaux. Voilà, elle a cet intérêt. D'ailleurs, actuellement, on fait pas mal de recherches sur la pervenche de Madagascar, qui est de la même famille, pour tous ces problèmes-là, voire le cancer.
D'accord, j'allais dire Alzheimer, parce que j'ai parlé de mémoire et tout.
Mais on pense que, ils font de la recherche là-dessus, oui. Ouais. Pour l'instant, on en est à l'état de supposition et de recherche.
Radio, on est là, toujours en direct sur 107.7 et sur lasphero.net. Et on remercie Barbier, et puis on remercie aussi notre technicien en chef qui s'est fait interviewer. Et vous pouvez le retrouver, donc Barbier, c'est la Place aux Herbes à Verrières-en-Forez, et ils ont un site internet, on n'a pas l'adresse exacte, mais si vous tapez la Place aux Herbes à Verrières-en-Forez, vous pourrez avoir plus de détails sur tout ce qu'ils font. Et il y aura sûrement une autre émission à une prochaine saison ou avant. Nous, on va se dire au revoir pour cet après-midi. On va lancer la playlist et on se retrouve demain à 14h. Bonne fin de journée.